Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Duval, je suis le rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques. Alternatives économiques est très heureux de s'associer pour la deuxième année consécutive aux journées de l'économie et de constater que celle-ci rencontre un succès croissant parce que cela c'est tout à fait convergent avec l'effort que nous-mêmes essayons de produire pour rendre accessibles les sujets, les problèmes économiques et sociaux à un grand public. Et donc nous sommes aussi très heureux d'animer et d'organiser cette conférence sur un sujet qui nous tient toujours particulièrement à cœur, à savoir le sujet des inégalités, de leur dynamique, leur évolution. Et il est assez logique que les journées de l'économie nous aient placés dans la bourse du travail, puisque c'est un type de vision de ce genre de sujet économique qui aussi rejoint nos propres préoccupations. Pour l'aborder ce matin, différents angles de vue. Donc nous démarrons avec Jean-Louis L'Héritier, qui est chef du département des prix à la consommation des ressources et des conditions de vie des ménages à l'INSEE, qui nous tracera le portrait tel que l'INSEE peut le faire de la dynamique des inégalités, de la question des classes moyennes, en particulier dans le contexte français. Nous enchaînerons avec Régis Bigot, qui est directeur adjoint du département Conditions de vie et aspirations des Français au CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui vient de mener une étude importante sur cette question, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour passer ensuite à Florence Janicatrice, qui est maître de conférence à l'Université de Paris, de Lille 1, pardon. Et aussi membre junior de l'Institut universitaire de France. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire junior, mais. Et qui a beaucoup travaillé sur les questions de service à la personne en particulier, donc dans cette polarisation, parce qu'elle a déjà une longue expérience académique, sur les questions des services à la personne et du travail à bas salaire qui jouent un rôle important dans cette polarisation. Et nous terminerons avec Pierre-Noël Giraud, donc, qui est professeur d'économie à Mines Paris Tech, comme on dit aujourd'hui, et à Paris Dauphine, donc, qui a beaucoup travaillé en particulier sur les questions de la mondialisation et de leur interaction avec les questions des inégalités. Donc Jean-Louis L'Héritier, donc, à une époque que beaucoup d'entre nous ont connue, sauf Florence Janicatrice, il était beaucoup question de moyennisation. On considérait que c'était la tendance de fond de la société française comme de l'ensemble des sociétés développées. Aujourd'hui, on parle beaucoup plutôt de la disparition des classes moyennes. Où en est-on? Comment est-ce que, vu des données de l'INSEE, qui vient en particulier de faire paraître France Portrait Social hier, donc un document qui reprend notamment beaucoup d'éléments sur les questions de revenus, d'inégalités de revenus dans la société française. Mais Monsieur L'Héritier a attiré mon attention sur le fait qu'il y en aura d'autres la semaine prochaine, donc puisque Monsieur Cottis doit faire une conférence de presse mardi prochain sur la question qui était traité dans la conférence précédente, celle des nouveaux indicateurs de richesse, et à cette occasion, donner de nouveaux éléments d'information sur les inégalités en France. Donc, comment est-ce que, vu de l'INSEE, tout ceci se présente?
Merci. Donc, je vais commencer, voilà, mon diaporama. Bonjour à toutes et à tous. Je vais simplement, pour introduire, dire un mot. Du fait qu'il n'y a pas en fait de définition des classes moyennes à l'INSEE. Je vais partir un peu finalement du revenu médian, du niveau de vie médian, et puis je vais un peu. On va
Simplement,
regarder un peu.
le revenu médian pour tous
Oui,
les
alors
gens.
c'est le revenu tel que la moitié de la population à un niveau de vie moindre et la moitié de la population à un niveau de vie supérieur. C'est en gros le niveau de vie qui va séparer la population en deux. Donc après, j'irai vers d'autres indicateurs de la distribution des niveaux de vie. Alors justement, c'est quoi le niveau de vie? C'est quand même la grandeur économique un peu centrale dès qu'on parle des revenus des ménages. C'est le rapport entre le revenu du ménage et le nombre d'unités de consommation du ménage. En fait, c'est aussi, préférable...
Si vous pouvez expliquer en
quelques secondes. Oui, tout à fait. Non, c'est préférable de prendre cette grandeur économique plutôt que le revenu par ménage, parce que le ménage peut avoir une personne ou 5 ou 6, 7, 8 personnes dans le ménage. Donc d'une part, il faut bien tenir compte de la taille du ménage, et d'autre part, c'est préférable à un indicateur qui serait celui du revenu divisé par le nombre de personnes. On préfère utiliser les unités de consommation pour tenir compte des économies d'échelle qu'un ménage réalise, parce que en gros, les économies d'échelle, ça consiste notamment à partager des pièces communes. On a besoin qu'une seule cuisine, une seule salle de séjour, qu'on soit 2, 3 ou 4, en gros, ou 5. Pareil pour certains équipements ménagers, le lave-linge, le four, etc. Donc on voit qu'il y a des économies d'échelle. Et donc en gros, deux personnes ne vont pas compter pour deux, ils vont compter pour 1,5. En gros, ils n'ont besoin que d'une consommation multipliée par 1,5 par rapport à un célibataire pour avoir le même niveau de vie, si vous voulez, qu'une personne seule. Et non pas deux fois le revenu pour avoir le même niveau de vie. Bon, je vais dire un mot, bien sûr, des distributions de niveau de vie. Après, je passerai un tout petit peu à la consommation. Et enfin, je parlerai un petit peu de perception des ménages, parce que derrière ces questions-là, derrière la fin des classes moyennes, il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup de questions de perception. Je vous en dirai un mot un peu indirect, mais enfin qui se rattache. Alors, d'une part, je vais commencer par comparer le revenu médian et le revenu moyen, le niveau de vie moyen, le niveau de vie médian, le niveau de vie moyen, c'est simplement la somme des niveaux de vie divisés par c'est la moyenne des niveaux de vie sur l'ensemble de la population. Donc on voit en gros que depuis 96 à 2007, de 96 à 2007, les courbes sont très très proches. On voit pas grand chose. Alors c'est pas tout à fait la situation. En bleu vous avez les USA, en rouge vous avez la France. Donc le bout de la courbe, c'est le graphique précédent que je vous ai présenté pour la France. Donc ce qui est plutôt intéressant, on voit que la France, en gros, il n'y a pas trop de divergence entre le revenu moyen et le revenu médian. D'ailleurs, le revenu médian est globalement un peu au-dessus, d'ailleurs, même que le revenu moyen. C'est plus du niveau de vie, parce que pour les États-Unis, on n'a pas obtenu, j'ai pas réussi à obtenir les chiffres en niveau de vie. Mais c'est pareil, c'est le revenu par ménage, à ce coup-ci. Ce qu'on voit aux États-Unis, par contre, il y a une énorme divergence entre le revenu moyen des ménages et le revenu médian des ménages. On voit que le revenu médian des ménages, c'est-à-dire que l'Américain du milieu de la distribution, en gros, il a divergé fortement par rapport à la moyenne de l'ensemble des ménages américains. Et tout le monde sait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le très haut de la distribution aux États-Unis, qui a tiré vers le haut le revenu moyen, alors que le revenu médian, lui, n'est pas impacté par ce qui se passe dans le très haut. Et donc on voit qu'il y a une stabilité du revenu médian au cours des 10 dernières années. C'était un petit peu les références qui ont été mentionnées, je pense, lors de la première table ronde. C'était un peu ça qui était derrière le fait que si on mesurait que la moyenne, c'est en gros une espèce de revenu de la comptabilité nationale, on aurait la courbe qui monte sans arrêt. Alors que si on prenait, effectivement, si on s'intéressait au ménage médian aux États-Unis, c'est pas du tout la même histoire qu'on raconte. Donc c'était un peu aussi ça qu'il y avait derrière les explications qui tournaient autour de qualité de la vie, etc. Donc on a vu qu'en France, il ne se passait pas grand-chose lorsqu'on compare, notamment par rapport aux États-Unis, moins de divergence en gros entre les deux indicateurs centraux d'évolution du niveau de vie. Alors là, on a représenté trois indicateurs, toujours la médiane, en rouge foncé, c'est la médiane, et on a indiqué en bleu le premier décile, c'est-à-dire le niveau de vie au-dessous duquel se situe 10% des ménages. Et on voit que, ce niveau de vie, le premier décile, a augmenté plus vite que la médiane. C'est-à-dire qu'on a une croissance, en gros, plus rapide, en gros, des niveaux de vie dans le bas de la distribution. Alors que dans le haut, si on prend le neuvième décile, c'est-à-dire le niveau de vie au-dessus duquel se situent les 10% des ménages les plus aisés ou les personnes les plus aisées, on a une croissance qui est très très proche de la médiane. Donc apparemment...
Mais c'est la frontière de...
C'est la frontière, tout à fait. Oui. C'est vraiment le niveau...
Vous ne parlez pas du 1% les plus...
Tout à fait. Donc ce qu'on voit en gros, c'est qu'il y a plutôt un tassement... C'est le dernier... la dernière courbe, en gros, qui baisse. On voit que ce qu'on appelle le rapport interdécile, c'est-à-dire le niveau de vie au-dessus duquel sont payés les 10% les plus aisés, et le niveau de vie dont bénéficient les 10% des personnes les plus aisées, rapporté au niveau de vie en dessous duquel se situent les 10% les plus modestes, on voit que ce niveau de vie, ce rapport a baissé. Donc, en gros, il y a plutôt un tassement de la hiérarchie des niveaux de vie.
Et mais en même fait, une fois que vous avez pris en compte les revenus des patrimoines, ce que vous ne faisiez pas très bien jusque-là,
c'est une courbe qui est un peu un mixte. Hein, effectivement, donc ça serait peut-être effectivement un peu moins net si on avait mieux tenu compte par le passé effectivement des revenus du patrimoine, qui ont été effectivement relativement dynamiques au cours des années 2000. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est si on prend en gros les déciles, c'est-à-dire des limites de tranches, on voit plutôt un tassement de la distribution des niveaux de vie et un tassement qui est plutôt un tassement par le bas, c'est-à-dire que le bas de la distribution augmente plus vite que la moyenne ou que le haut. Alors, si on regarde par contre un autre indicateur, les déciles de niveau de vie permettent de couper la population en 10 groupes. Donc il y a les 10% les plus modestes, etc., et au sommet, les 10% les plus aisés. Et au lieu de regarder les limites de tranches, on fait maintenant la moyenne des niveaux de vie, des 10% les plus modestes, etc., les 10% les plus aisés. Donc là, on voit qu'on raconte pas tout à fait la même histoire. Hein. Alors les indicateurs, en bleu, tout en hausse, on voit toujours, on confirme toujours que la part détenue par les 10% des ménages les plus modestes augmente. Donc c'est la part par rapport à l'ensemble des niveaux de vie de l'ensemble des ménages. On a le même phénomène pour ce qu'on appelle le S20 moins S10, c'est-à-dire les 10% qui sont juste au-dessus des 10% les plus modestes. Donc c'est la courbe en rose. Donc on voit qu'elle est au-dessus de 100, c'est-à-dire qu'il y a une légère progression aussi. Il y a aussi donc une légère progression des 10% des niveaux de vie accaparés ou dont bénéficient les 10% les plus aisés. Mais par contre, le résultat que je voulais vous montrer, c'est que donc pour les autres, les 70% restants, donc c'est la courbe en jaune, on voit qu'ils sont sous les 100, c'est-à-dire que sur la période 96-2007, il y a eu une baisse de la part des niveaux de vie détenus par, je dirais, le milieu de la distribution des niveaux de vie. Donc c'est un enseignement un peu différent de la première, du premier graphique qui donnait simplement des limites de tranche. Alors on voit qu'il a dû se passer des choses effectivement dans le haut de la distribution, parce que lorsqu'on considère le neuvième décile, c'est-à-dire limite de tranche, on ne tient pas compte finalement de ce qui se passe dans le vraiment très très haut. Lorsqu'on fait une moyenne des 10% les plus aisés, forcément on tient compte de l'ensemble des ménages situés au-dessus du neuvième décile. Là on voit qu'il se passe des choses puisque... Donc on voit en gros que le milieu de la distribution a pu avoir l'impression de se faire un peu rattraper par le bas et un peu distancé par le haut, mais c'est quand même pas encore des chiffres qui sont quand même aussi spectaculaires que ça. Alors je voulais simplement dire sur le fait qu'on essaye d'améliorer les statistiques sur les revenus en France, qu'on travaille essentiellement à partir des données fiscales, c'est-à-dire les déclarations de revenus que tous les ménages français rédigent chaque année. Et nous récupérons aussi les prestations payées par les organismes sociaux, donc les allocations familiales, le RMI, maintenant RSA, etc., les allocations logement. En 2005, il y a eu une première amélioration. Nous sommes passés aux prestations réelles. Bon, ça, c'est un peu technique. Mais surtout, nous avons réussi à mieux couvrir les revenus financiers qui sont très largement non imposables, donc qui apparaissent ni dans la source fiscale, ni dans la source, disons, des prestations sociales, forcément. Donc là, il y a une présentation des améliorations dans le dernier INSEE référence de l'INSEE sur les revenus et le patrimoine des ménages en 2009. On montrait que ça a une conséquence sur le taux de pauvreté, notamment, ça faisait mieux prendre en compte les revenus financiers, faisait croître le taux de pauvreté de 1 point, avait un impact de 1 point sur le taux de pauvreté. L'année prochaine, nous allons publier une étude sur les très hauts revenus. Donc nous allons aller sur les 1 millième et 1 dix millième des personnes les mieux rémunérées en France, donc pour voir un peu ce qui s'est passé. Il y a eu des travaux qui, par le passé, notamment Camille Landais ont montré, et puis Thomas Piketty ont montré qu'effectivement, il se passait des choses aux États-Unis, mais aussi en France. Hein. Donc là, on va continuer, reprendre un petit peu le travail. Et à partir de 2012, nous travaillons à une couverture, une meilleure couverture du haut de la distribution des revenus et à un fichier exhaustif qui permettra d'avoir, en gros, l'ensemble des revenus fiscaux et sociaux. Donc ça permettra aussi de couvrir tous les besoins d'information sur les inégalités au niveau local. Ce sera une grande progression, je pense, pour la connaissance des revenus en France. Alors, je voulais dire simplement très rapide sur la consommation, pour voir un peu ce qu'on voit. En gros, on voit que la consommation progresse toujours. On arrive quasiment à une saturation pour l'ensemble des... Bon, il reste que surtout le micro-ordinateur, hein, qui... tout en haut, c'est les téléviseurs, etc., enfin, la voiture, etc., on arrive à des taux proches de 100%. Donc on ne voit rien, je dirais, sur un décrochage, en gros, de l'équipement des ménages. On ne voit pas non plus grand-chose sur les taux d'équipement. Donc là, c'est la différence entre le taux d'équipement des cadres et le taux d'équipement des ouvriers. Et on voit, en gros, que toutes les classes, les classes sociales, disons, un peu extrêmes, entre les ouvriers d'un côté et les cadres de l'autre, ben, convergent fortement au cours des... On convergeait fortement au cours des 50 dernières années. Bon, il reste des écarts effectivement pour le lave-vaisselle, le micro-ordinateur, mais on voit que les choses diminuent fortement. Les écarts sont de plus en plus limités entre classes sociales. Bon, c'est difficilement lisible. Bon, enfin, en gros, que là, on voit aussi que lorsqu'on ventile la consommation par poste, on voit que les choses convergent largement, notamment pour ce qui est de l'alimentation. En gros, là. La part de l'alimentation qui était de 34% pour les 20% des ménages les plus modestes est tombée à 17% et s'est rapprochée effectivement du chiffre des 20% les plus aisés qui consacrent 13% à l'alimentation. Donc en gros, on a une convergence. Le fait notable, c'est peut-être qu'effectivement, c'est maintenant le logement qui va distinguer un peu les classes sociales, beaucoup moins que l'alimentation. Alors on voit, bon, globalement, le diagnostic qu'on peut voir de l'INSEE, c'est qu'il ne se passe pas énormément de choses, en gros, dans le cœur de la distribution des ménages. Mais par contre, effectivement, il y a un fort sentiment de crise des classes moyennes. Moi, on peut le relier aussi au hiatus qu'il y a eu entre la perception des ménages des chiffres d'inflation et les chiffres mesurés par l'INSEE. C'est vrai aussi pour le pouvoir d'achat. Exactement de la même façon, il y a un hiatus entre le pouvoir d'achat mesuré par la comptabilité nationale et la perception qu'en ont les ménages. Donc on voit là simplement un graphique, la courbe en bleu c'est l'opinion des ménages sur en gros l'inflation passée, et en rouge c'est le chiffre un petit peu de l'INSEE. Alors bon, c'est un peu artificiel, mais enfin on voit bien qu'il y a un décrochage à partir de 2002, au moment de la mise en place de l'euro. On a quand même un hiatus là entre l'inflation ressentie et l'inflation perçue qui persiste en France, alors qu'elle a existé dans la plupart des pays. Elle a un petit peu, c'est vraiment estompé ailleurs, notamment en Allemagne. On a essayé d'expliquer ça, un peu cette crise, un peu qu'on peut relier un petit peu une crise des classes moyennes. En regardant, on a défini un petit peu le concept de dépenses pré-engagées, c'est-à-dire c'est les dépenses pour lesquelles le ménage a peu de marge de manœuvre à court terme pour procéder à des arbitrages. C'est essentiellement le logement. Et on voit en gros que la part des dépenses qu'on appelle pré-engagées, c'est la courbe en bleu, c'est en pourcentage, donc est passée de 13% en 1960, en gros, à 29% en 2008. Donc on voit que la part des dépenses un peu pré-engagées, sur lesquelles le ménage à court terme a peu de marge de manœuvre, de marge d'arbitrage, a fortement augmenté, ce qui a pu donner l'impression, effectivement, d'un moindre revenu arbitrable, comme on dit à l'INSEE, il reste moins arbitré une fois qu'on a payé en gros ses factures d'électricité, son loyer, etc., ses dépenses d'assurance, etc. Le dernier point, c'est très très rapide, simplement pour montrer en gros que ces dépenses préengagées ont surtout concerné la courbe tout en bas, c'est tout en haut, en bleu foncé, ce sont les 20% des ménages les plus modestes qui effectivement, eux, sont les seuls ont supporté effectivement l'essentiel de la hausse des dépenses préengagées. Voilà, je vous remercie.
Bien, donc, au vu des données rassemblées par l'INSEE, donc les divergences sont, en termes de revenus sont effectivement fortes aux US, mais la dynamique a été moins forte en France, même si on constate bien qu'il y a eu des problèmes de pouvoir d'achat pour les 70% du milieu de la distribution par rapport aux 20% du bas qui ont un peu gagné sur la dernière période. Bon, il faudra y regarder de plus près sur ce qui s'est passé du côté des très hauts revenus parce qu'on soupçonne qu'il se passe des choses à ce niveau-là. Mais globalement, la dynamique est moins impressionnante, en tout cas vu des chiffres, que ce qui peut ressortir du débat public sur ces questions. Donc Régis Bigot, justement, le CREDOC a un très long historique d'analyse à la fois des comportements, mais aussi des opinions des ménages sur toutes ces questions. Vous venez de sortir une importante étude justement sur les classes moyennes, les perceptions, etc., et les comportements. Cette étude est disponible sur le site du CREDOC, mais ça ne devrait pas empêcher le public non plus de consulter le livre que Régis Bigot a écrit sur la base de ce travail, qui s'appelle « Fin de mois difficile pour les classes moyennes » et qui paraîtra en février prochain aux éditions de l'Aube. Donc, Régis Bigot, comment, vu du CREDOC, appréciez-vous la question qui est posée? D'abord, quelle réponse y donnez-vous? D'autre part, peut-être, est-ce la bonne question?